Véronique Richefleurès, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fondé un cabinet d'études économiques indépendant hein, qui s'appelle Richefleurès Research, justement sur ces questions économiques que vous connaissez bien. On va parler avec vous de cette actualité avec, on peut le dire, à la rentrée, deux événements importants, notamment bien sûr les confirmations et Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, qui a rassuré les investisseurs sur ces nouvelles décisions, et puis la Réserve fédérale américaine qui continue cette politique de taux bas aux États-Unis encore un peu plus longtemps, on va dire. Les investisseurs boursiers, en tout cas, ont eu l'air d'apprécier ces dernières décisions. Sur le plan de l'économie, d'autre point de vue, qu'est-ce que ça révèle de la stratégie de la Réserve fédérale? On va commencer par elle, Réserve fédérale américaine. Est-ce qu'elle a changé de stratégie dernièrement?
Alors écoutez, effectivement, moi je comprends ce communiqué et les annonces faites comme illustrant un changement de stratégie qui est assez radical en réalité. La Fed donc, a effectivement annoncé qu'elle allait racheter des MBS, hein, ces fameux titres adossés sur des créances hypothécaires, hein, pour un montant de 40 milliards, dont acte. C'est pas ça véritablement qui change. La première chose qui change, c'est qu'il y a plus de durée limite ni de target, si on peut dire, d'objectifs d'intervention. Et surtout, à partir du moment où la Fed ne reprend pas ou ne prolonge pas ses opérations d'achat sur la partie longue des titres d'État, ces opérations de twist vont s'épuiser d'ici la fin de l'année tout doucement, et on ne programme pas de racheter davantage. Ça veut dire que la Fed n'aura plus la main sur la partie longue de la courbe des taux. Et ça me semble un signal très très important qui illustre quelque part probablement sa volonté de laisser se repentifier un petit peu la courbe des taux. Et j'y vois quelque chose d'essentiel. D'abord, une rupture par rapport au passé, c'est-à-dire que la stratégie ne consiste plus à abaisser le loyer de l'argent uniquement, mais y compris à faire en sorte d'encourager les banques à être plus promptes à faire de la transformation bancaire.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque part, c'est un constat d'échec de sa stratégie initiale.
Quelque part, et je dirais, c'est pas forcément surprenant, on pouvait s'interroger, cette stratégie de baisse des taux, dans un contexte conjoncturel quand même difficile, où on assure, ou on assurait en tout cas, aux acquéreurs potentiels, que finalement ils avaient le temps, que de toute façon les taux d'intérêt resteraient bas pendant très longtemps, que la Fed serait là. Est-ce que c'est véritablement la meilleure stratégie pour raviver cette. Parce qu'il y a toujours, hein, même en temps de crise et de difficultés, il y a toujours un certain nombre d'acquéreurs potentiels qui attendent le point bas. Donc je crois que là, on vise quelque chose d'autre, à la fois du côté du système bancaire, en disant, si on n'offre pas des conditions favorables à la transmission bancaire, on n'aura pas de surcroît d'offres de crédit. Hein, et donc on agit à ce niveau-là. Et probablement qu'en même temps, on agit du côté des acquéreurs potentiels, en leur faisant miroiter qu'il peut y avoir des conditions de financement moins favorables dans quelques temps qu'aujourd'hui. Donc moi, j'ai pris cette mesure comme effectivement, un, une rupture avec le passé, deux, une rupture avec les pratiques de la Banque du Japon, qui semblait jusqu'à maintenant avoir largement inspiré celle de la Fed. Donc c'est. Or, on sait que la Banque du Japon n'a pas véritablement été efficace. Et une très bonne nouvelle, enfin une bonne nouvelle, susceptible effectivement d'avoir plus d'effet sur l'évolution de l'offre du crédit aux États-Unis.
Est-ce que ça veut dire derrière toutes ces mesures, toutes ces décisions aussi, que pour les investisseurs, justement, les questions d'inflation vont revenir à un moment donné? C'est vrai que durant la crise, hein, on a eu des vagues où ces sujets-là revenaient au devant de la scène et puis on se disait, bah non, il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de problème d'inflation. Mais est-ce que la stratégie peut amener
Alors, il y a
effectivement.
d'autant moins de problèmes d'inflation avec la stratégie qui a été la politique européenne de ces derniers trimestres, hein, qui instille quand même beaucoup de déflation dans le système. Il n'en reste pas moins que la politique de la Fed est, je dirais, de jour en jour plus transparente en faveur finalement de l'inflation. On commence d'ailleurs à évoquer la possibilité de changer le target d'inflation au-dessus de ce qu'il avait été. Et ça me semble effectivement cette extension du bilan. Quand même incroyable, hein, parce qu'on on cherche la normalité dans tout ça. Je crois est devenu implicitement une politique ouvertement inflationniste, qui devrait-on potentiellement avoir des effets sur les taux longs, d'autant plus marqués, et commencer à modifier les anticipations.
Alors, côté Banque Centrale Européenne, effectivement, on a vu ces dernières mesures qui ont rassuré. On a dit que finalement, ça n'avait pas bien sûr réglé tous les problèmes de la zone, et on pense bien entendu à la croissance, mais qu'il y avait un début de réponse, en tout cas, de la Banque Centrale Européenne, crédible, on va dire, vis-à-vis des marchés, notamment.
Tout à fait. Écoutez. Bien évidemment, ça ne règle pas les problèmes de croissance et de croissance structurelle, y compris de problématiques à court terme. C'est incontestable. Il n'en reste pas moins qu'on a fait un pas de géant. On a fait un pas de géant. Finalement, la BCE a finalement accepté l'idée d'intervenir et d'acheter des obligations. C'est-à-dire, on l'attendait depuis 4 ans. Donc c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça dote cette zone euro et la Banque centrale de cette capacité d'être prêteur ou d'un prêteur en dernier ressort que n'avait pas l'Europe. Donc là, si vous voulez, pour moi, on court-circuite le risque de transmission d'un choc macroéconomique en crise systémique. Et pour les marchés, bien évidemment, c'est essentiel. Ça veut dire qu'on peut maintenant s'occuper de gérer la partie conjoncturelle, les parties structurelles, etc., qui sont des dossiers extrêmement compliqués, sans avoir cette menace constante d'entraîner dans une espèce de spirale extrêmement dévastatrice l'ensemble du système financier, du système bancaire, etc. Donc c'était essentiel et ça me paraît effectivement un pas très important. Est-ce que la BCE utilisera toutes les marges de manœuvre dont elle dispose ? On verra bien. Pour l'instant, la communication a été efficace. Ça montre également, ça c'est important, que quand on sait bien communiquer, le marché fait l'essentiel du travail avant que même la Banque centrale intervienne, ce qui est assez, je trouve, intéressant. L'autre élément, c'est qu'on rompt, on coupe le cordon ombilical avec la Bundesbank. Alors, on ne peut pas aujourd'hui en apprécier les effets sur le court terme. Sur le moyen-long terme, en ce qui concerne la gestion de la politique monétaire de cette zone euro, c'est probablement un message essentiel. Donc oui, là encore, il s'agit d'une rupture beaucoup plus importante en réalité que celle pratiquée par la Fed, qui donne une chance de survie à cette zone euro. Je pense que là également, ça témoigne du changement et de la prise de conscience que cette zone euro est vitale pour l'Europe dans les perspectives de moyen long terme dans un monde où effectivement sinon l'Europe ne ressemblera plus à rien, ne sera plus visible.
Alors ça nous amène effectivement à parler de croissance. On a vu sur les pays périphériques les effets des plans de rigueur annoncés. Un plan plus proche de nous, c'est bien entendu ce qui a été annoncé, les plans d'économie qui a été annoncé par le gouvernement. Et puis cet objectif de 3% déficit en 2013. Et on se dit aujourd'hui avec ces chiffres-là, est-ce que l'économie française va supporter ce choc ? On a déjà dit que c'était un choc historique, qu'il n'y avait jamais eu autant, le gouvernement lui-même qui l'a reconnu. Est-ce que c'est possible ?
Alors c'est énorme. C'est énorme parce qu'on a fait beaucoup. En réalité, on a toujours l'impression que la France n'a pas fait grand-chose, pas beaucoup d'efforts. Non, c'est pas vrai. Quand on fait le cumul des efforts structurels, donc sur le plan des finances publiques, en réalité, on a déjà fait beaucoup. Et quand on intègre ce qu'il faut faire pour parvenir à ces 3%, ce à quoi on s'est engagé, ça suggérerait, ça positionnerait la France, je dirais, dans le haut des pays de la hiérarchie européenne en termes d'ajustement budgétaire. Donc on a fait. Le problème aujourd'hui, c'est que dans une conjoncture qui se dégrade et qui va devenir probablement dans les 6 prochains mois beaucoup plus difficile encore qu'elle ne l'a été, parce que les effets de diffusion du choc intra-européen et mondial sont énormes et devraient jouer leur maximum d'effet sur le deuxième semestre, avant la fin de l'année. Et donc, ce n'est pas une croissance qu'on aura probablement l'an prochain. Moi, j'arrive à une décroissance et je vous promets que je n'ai pas un scénario extrêmement négatif. Au contraire, j'ai des forces de rappel, parce que sinon ça part en spirale très négative, j'ai des forces de rappel de la part des politiques économiques, monétaires et budgétaires pour stopper cette spirale négative. Mais ce que nous disent déjà les indicateurs, c'est qu'on aura droit à au moins 2 trimestres de contraction du PIB. À partir de là, effectivement, la moyenne de croissance l'année prochaine sera négative, probablement dans la zone des -0,5, -0,7. Et ça change tout, parce que ça représente un manque à gagner pour les finances publiques, qu'il va falloir, si on veut effectivement toujours maintenir ce 3%, compenser par davantage de restrictions. Et là, on atteint effectivement un niveau qui paraît complètement incroyable, qui n'est pas crédible, et qui risquerait, si vraiment on s'attachait à cet objectif de manière obtuse, de créer une espèce de spirale dépressive, comme on a vu dans le cas de l'Espagne, de l'Italie, bien évidemment de la Grèce. Donc je crois que ce n'est pas tenable. En revanche, la position du gouvernement, qui consiste à montrer qu'on va vers des réformes structurelles, lui permettra probablement d'être sûr de conserver une crédibilité sur des avancées structurelles, de sorte que quand on aura à dire, bah oui, ce ne sera pas cette année, mais peu importe, on a mis les bases pour y parvenir, finalement, peu importe, l'essentiel, c'est la direction, ce n'est pas tellement le 3% lui-même, pour y parvenir à un horizon décent, qui n'est peut-être pas d'ailleurs 2014, on verra, ça peut être suffisant, ça peut être la bonne stratégie. Il n'en reste pas moins que du point de vue économique, 3% paraît complètement illusoire pour 2013.
Voilà, eh bien, ça sera le mot de la fin et donc on suivra ça, bien entendu. Merci Véronique Richefraise d'avoir été avec nous. Rappelez-vous donc que vous avez fondé ce cabinet d'études économiques indépendants. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Didier.